I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre, personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Allez, bonjour tout le monde, aujourd'hui, podcast épisode avec Max, un pote que je connais depuis une dizaine d'années, avec lequel j'ai pendant longtemps fumé de la weed. À chaque fois qu'on se voyait, en fait, on fumait des pets ensemble.
Tout le temps.
T'es une personne que j'ai... Tout le temps, en vrai. Je t'ai beaucoup associé à la beuh, en fait. On a une amitié qui s'est énormément construite autour de cette plante, puisque je t'ai rencontré quand j'avais environ 18-19 ans, par là, donc il y a environ 10 ans. On était dans un local ensemble, à Founet, où on se rencontrait avec plein de groupes de potes qui faisaient tous de la musique. Tu faisais et tu fais encore d'ailleurs de la musique. Mais un jour, ce local a fermé. J'ai gardé contact avec toi et avec un autre gars qui s'appelle Jedi. Puis toi aussi, t'as gardé un contact, des contacts avec,
Jedi, ouais.
Moi et Jedi. Donc en fait, on est les trois, on a pas mal gardé contact. Et puis voilà, régulièrement, quand je reviens en Suisse visiter mes parents, que ce soit depuis Zurich, que ce soit depuis la France, depuis Barcelone ou le Mexique, bah, chaque fois, on se revoit et puis on se tient un peu au courant de ce qui se passe dans nos vies. Et bah, là, récemment, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais en train de travailler sur un projet dans lequel je racontais mon expérience avec la beuh. Donc c'est une vidéo que vous pouvez trouver sur ma... sur ma chaîne, qui s'appelle « La weed a changé ma vie », où je vous raconte comment est-ce que j'ai vécu mon expérience en tant que fumeur de weed. Et je me suis dit, c'est marrant, en fait, parce que Max, c'est la personne, je pense, avec laquelle j'ai le plus fumé. Et en fait, je connais pas, en fait, ton expérience, ton vécu vis-à-vis de la beuh. Et aujourd'hui, je me suis dit, en fait, que ça serait une... Surtout qu'il s'est passé un événement très fort récemment, on pourra en parler. Et je me suis dit que ce serait génial, en fait, qu'on partage là-dessus, en fait, que tu me racontes comment est-ce que tu as vécu tes premiers pets, avec qui tu fumais, et comment est-ce que... Enfin, ton expérience, en fait, avec la weed, ta relation avec la plante, je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant pour tous ceux qui fument, ou alors qui ont quelqu'un dans leur entourage qui fume, pour essayer d'améliorer leur compréhension de comment est-ce qu'une personne qui a souffert d'addiction peut se sentir. Comment est-ce qu'on vit une addiction? Parce que je pense que tu peux être d'accord. Enfin, moi, en tout cas, je me suis considéré comme complètement addict, dépendant de la substance. Est-ce que c'est ton cas?
Ouais, c'est mon cas aussi. J'étais plus libre, en fait, de ne pas fumer.
Ok, bah, et ça, c'est un peu le... J'imagine que c'est comme ça qu'on peut définir l'addiction. C'est
ouais,
un peu,
ouais, complètement.
C'est le moment où tu sens que tu peux pas fonctionner sans.
Mm-hmm.
Et on a les deux vécu ce truc. Moi, je l'ai vécu d'une certaine manière, toi d'une autre, et du coup, j'ai envie de comprendre ça. Comment tu te sens?
Bah, je me sens bien. Et je suis prêt à t'expliquer cette relation que j'ai eue avec le cannabis. Mais faut que tu leads.
Vas-y, ouais, comme on a dit, on a déjà fait des tentatives de podcast avec Max, et vu qu'on se connaît tellement, on a eu tellement de conversations hors caméra, c'est... Bah en fait, on a enregistré un podcast qui a complètement foiré, qu'on a décidé de jamais poster, et puis bah, c'était un peu compliqué d'avoir cette discussion, mais en même temps, c'était aussi moi qui n'avais pas d'expérience dans le podcast.
C'était dans les premiers, ouais.
Ouais, c'était il y a très longtemps. Ouais. Donc là, cette fois-ci, je me sens plus à l'aise, moi, perso, avec un micro, et je vais leader la conve, histoire que je vais te poser les questions, et puis on va avancer gentiment.
Et ouais, à fond.
C'est parti. Du coup, comment t'es né?
Probablement comme beaucoup de monde. Non, comment j'ai commencé?
Ouais, comment t'as commencé? C'était comment t'es...
J'ai commencé, je pense, vers mes 15 ans avec ma cousine. En pure envie d'expérience, quoi. Comme je pense beaucoup de gens. Et du coup, elle avait déjà fumé quelques fois. Elle n'était pas addict ou quoi. C'est juste qu'elle avait déjà fait ses expériences. Et puis, elle est venue chez mon père et on allait s'isoler dans la forêt pour fumer ce premier joint. Et j'ai pris une claque phénoménale.
Dès le premier pet?
Ah, j'étais autre part, quoi. L'effet était tellement fort, tellement violent que j'étais complètement défoncé, quoi.
Essaye de décrire, peut-être comment tu le ressentais subjectivement et essaye de pas forcément les effets, tu vois, ou peut-être les effets que t'as ressentis, mais aussi ce que ça t'a fait ressentir de te prendre une claque aussi forte.
Je sais pas, c'était très, comme quand t'es gosse et tu découvres un jeu vidéo ou un jouet, tu vois, tu prends plaisir à expérimenter le truc. Et ouais, moi j'étais trop bien, quoi. Je me suis trop amusé. En fait, c'était vraiment récréatif et drôle, quoi. La première expérience, ouais, je suis parti dans des délires Ouais, je sais pas comment les décrire, quoi, mais ça a tout changé, quoi. Je sais pas si des gens se rappellent de leur première fois qu'ils ont fumé, tu vois. Mais c'est vraiment un effet, la première fois, tellement violent que, ouais, il y a plus de... Ouais, je sais pas comment décrire.
Frère, c'est tellement fort, tu sais pourquoi? Parce que, alors, ce que vous ne savez pas, mais ce que Max et moi, on sait, c'est que t'as pas vu ma vidéo sur la weed.
T'as pas
vu celle où du coup je raconte ma première expérience et je la décris comme ça. Okay. En fait, ma toute première, j'ai fumé 2-3 là sur un pet si tu veux et j'étais pas vraiment foncedé, tu vois, parce qu'il y avait du tabac dedans et je pense j'ai dû vraiment fumer très peu.
T'as crapoté au pire. Ouais.
Je me sentais juste un peu parano, tu vois, un peu, je sais pas, j'étais méfiant, je me disais les gens vont remarquer que je suis un peu bizarre et tout, parce que je sentais que j'étais un petit peu différent, tu vois. Mm-hmm. Mais la deuxième fois que j'ai fumé, j'ai tiré une douille sur un bang.
Ouf, ouais.
Et littéralement, je le décris comme toi, mec. C'est vraiment, ça m'a genre envoyé, j'étais ailleurs, j'étais autre part, ça m'a envoyé sur une autre dimension en fait.
Ouais,
j'étais. Ça m'a. Et c'est aussi drôle parce que tu racontes, tu parles d'une expérience comme si tu découvres un nouveau jouet, tu découvres quelque chose de nouveau, une nouvelle mm-hmm. expérience. Et ben, je le décris aussi comme ça dans ma vidéo, mec.
Okay.
Je dis aussi que.
Même retour, quoi.
Full même retour. Je disais, en fait, j'étais dans ma chambre, moi je l'ai fumé à l'extérieur, si tu veux, c'était tellement fort, en fait.
Tout seul
Non, j'étais avec deux potes. Enfin, j'étais avec un pote et sa meuf. Et c'était tellement fort que j'ai dû rentrer dans ma chambre pour sentir que au moins l'environnement autour de moi était full sous contrôle, parce que si j'étais en extérieur dans cet état-là, je sentais que ça j'avais besoin de plus de contrôle en fait.
Ouais, parce alors j'ai pas eu cette sensation justement de besoin de contrôle. Je me suis tellement laissé aller dans le truc que j'aurais pu croiser à ce moment n'importe qui. Bah, j'ai croisé personne, j'étais juste avec ma cousine.
Ouais.
J'aurais pu croiser n'importe qui, que j'aurais pas eu de parano ou de questionnement sur mon comportement. J'aurais juste vécu ma défonce face à la personne et sans problème, quoi.
D'accord.
Cette première expérience, c'était vraiment j'étais très libre de j'avais pas besoin de contrôle, pas besoin de me réduire ou de faire attention à ce que je faisais. J'étais dans le village en train de marcher comme un robot. J'avais l'impression d'être un robot la première fois que ouais, puis j'avais une démarche très mécanique.
Ouais.
Et ouais, j'étais complètement défoncé, quoi.
Est-ce que au niveau de ton état d'esprit au moment où t'as décidé pour la première fois de fumer un pet avec ta cousine, est-ce qu'il y avait quelque chose, qu'est-ce qui se passait dans ta vie à ce moment-là, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui se font proposer d'aller fumer de la beuh.
Ouais.
Plein de gens qui vont dire non. Et qu'est-ce qui a fait que toi t'as accepté? Est-ce que t'étais dans une période de ta vie où tu cherchais à expérimenter des nouveaux trucs? Est-ce
mais
que t'as toujours
pas.
Été ouvert à
c'est,
tester
c'est des... comme si c'est comme si je venais vers toi et je te dis viens on va faire un truc en ville, quoi. Et tu me dis ah ouais cool.
J'avais aucune... c'est la première fois qu'on te proposait et puis toi t'as dit
oui, j'avais aucune crainte, j'avais aucun a priori sur le truc. Je suis vraiment ouais comme essayer le skateboard, quoi. Je sais pas comment expliquer, vraiment
T'avais un peu d'autres gens dans ta famille, dans ton entourage qui fumaient ou t'avais
non,
déjà
Non, j'avais aucune connaissance où j'avais. Je savais même pas vraiment ce qu'était le cannabis en fait.
Ok.
C'était vraiment. Je sais que ça défonce, je sais que c'est un truc de grand. Voilà. Puis j'ai tenté.
Et puis dans ta vie à ce moment-là, t'étais comment? Genre, comment tu décrivais entre, je sais pas, 10 et 15 ans
J'étais un petit peu révolté. C'était le début de ma révolte contre le système, contre. Beaucoup de monde à cette période de vie de révolution, quoi, on va dire.
Ouais.
Mais en soi, j'étais pas mal, j'avais pas une vision de moi-même négative, ni forcément du reste du monde. J'étais assez bien, en fait, ça allait.
Ok, cette révolte que t'avais contre le système, c'était quoi? Genre pour.
C'est venu un petit peu après, mais c'est à peu près la même période. Bah, c'est ce moment où tu te rends compte de ce qui va mal et que inconsciemment tu décides de te focus sur ce qui va mal. Au lieu
monde,
de
en
ce
fait,
qui va bien, ouais. Du coup, bah, t'es fâché. Normal. Tu te dis, ça va pas. Mais ouais, j'étais plus ou moins dans cette période de vie. Et
Et tu faisais déjà de la musique?
Non, pas du tout.
T'as commencé à quel âge à chanter?
Je pense 3 ans après, 2-3 ans après. Donc
vers 16-17 par là?
Ouais, 16-17, je pense.
Ok.
Ouais.
Et de là, ok, t'as cette grosse expérience en forêt, tu rentres dans le village mécanique, enfin marchant comme un robot.
Ouais, ouais, exact.
De là, tu t'endors et c'est quoi, genre, a posteriori, genre, une fois que t'es plus défoncé, genre le lendemain matin quand tu te réveilles, tu te souviens un peu de.
Ouais, je me souviens, je me dis waouh, c'était une expérience incroyable, j'ai jamais ressenti ça, en fait, cet effet. Y a rien dans la vie qui t'amène à avoir cet effet, en fait.
Ouais.
Et du coup, trop bonne expérience et je me dis. Bah, je recommencerai bien une fois si ça se repropose, quoi.
Ouais.
Pas forcément, il faut que je refume ou quoi, bah ouais, juste si je peux refaire l'expérience, je le referai, quoi.
Ok. Et tu te souviens de la deuxième fois ou de la suite?
La deuxième fois avec ma cousine.
À nouveau?
Ouais, quelques temps après. Je pense qu'on a dû fumer 4-5 fois ensemble. Et de nouveau, au gros délire, j'étais dans mon lit, j'avais l'impression de revivre la même scène. À chaque fois que j'ouvrais les yeux, j'avais l'impression de revenir dans le temps. Enfin, c'était un gros délire.
T'entends quoi par là? Je comprends pas bien.
Bah en gros. J'avais l'impression d'être dans une boucle temporelle et je pouvais pas sortir de cette boucle. À chaque fois que j'ouvrais les yeux, je revivais le même instant que quand j'allais fermer les yeux et les rouvrir ensuite. C'est un peu complexe.
D'accord, ok, ok. Ouais,
du coup, j'avais juste l'impression d'être bloqué dans une boucle temporelle, mais ça me faisait rire. Ça me faisait trop rire, quoi. J'étais pas en bad ou. C'est vraiment, ça me faisait rire, quoi. Et après, bah, je pense que les expériences d'après étaient déjà un petit peu moins fortes. Mm-hmm. Et je m'en rappelle. Là, je m'en rappelle pas du trip, tu vois. Ces deux premières fois, c'est les fois où j'ai vraiment un souvenir de. Du trip que j'ai vécu. Mais très belle expérience, quoi.
D'accord.
J'ai bien apprécié.
Et genre, du coup, ces fois suivantes avec ta cousine, ça s'est organisé un peu de manière. Un peu ponctuelle, tu vois, spontanée, c'est ça?
Ouais, j'ai tendance à penser qu'on se donnait rendez-vous pour fumer, quoi.
Ouais.
En mode, on va se voir et on va fumer un joint, quoi.
Ouais, ok, ok.
Donc c'était vraiment le truc qu'on a partagé.
Un truc spécial, quand même. C'était...
Ouais, on a partagé ça ensemble, quoi.
Elle est plus âgée que toi, ta cousine?
Non, elle a un an de moins. Que moi.
Ok, ah d'accord, mec. Donc elle avait 13 ans en fait, littéralement. 14 ans en fait.
Ouais, par là, je pense. Ouais.
Putain, trop marrant, mec. Mais c'est qui ta cousine? Je l'ai déjà vue?
Non, tu l'as pas vue. C'est ma cousine de côté de mon père. On n'a pas de lien de sang.
Ok.
Elle a été adoptée. Mais je la connais depuis tout petit. Et depuis tout petit, on fait. Les plus grosses conneries de ma vie que j'ai fait, c'est avec elle.
D'accord, ok. C'est une allumée en fait. Genre, elle est complètement tarée.
Bah, quand on est ensemble en fait. Tout seul, non. Moi, tout seul, moins. Mais quand on est les deux, c'était catastrophique.
Ok.
Catastrophique. Donc ouais, c'est avec elle que j'ai vraiment commencé. À fumer, quoi.
Et de là, ça s'est passé comment? Genre, est-ce que t'as. Les fois suivantes, du coup, où t'as fumé ou t'as commencé à fumer peut-être avec d'autres personnes qu'avec ta cousine, c'était. Comment t'as rencontré ces gens? Est-ce que. Ou alors c'est toi qui as acheté de la weed ou est-ce que.
Non, alors, dans l'école où j'étais en école privée à. L'école des Rochers, enfin, pas au Rocher à Nyon, mais à la ferme des Rochers, c'est une petite école privée qui est là-bas. Et en gros, là-bas, beaucoup de gens fument. Et je pense que j'ai fumé une ou deux fois avec eux. Et ensuite, très vite, les jeunes de Founet ou quoi, qui fumaient déjà beaucoup. Et moi, je suis arrivé dans des groupes où les gens fumaient, en fait. Donc, je me suis vite acclimaté. Comme j'avais déjà expérimenté, je suis assez facilement allé dedans. Mais là, je fumais pas tout seul, je fumais juste... Et ensuite, il y a eu...
Tu fumais tout le temps quand t'étais en groupe?
Je fumais tout le temps quand j'étais en groupe, exactement, ouais. Et ensuite, il y a eu le copain de ma sœur, qui lui fumait beaucoup, récurremment. Ça se dit récurremment?
Récurrent, ouais, je crois.
Je suis pas sûr.
De façon récurrente, ouais, ça se dit récurremment, okay. En vrai, je crois.
Lui fumait beaucoup et je me retrouvais souvent dans l'appartement de ma sœur avec lui. Et lui ne voulait pas que je fume sur ses joints avant 18 ans. Ce qui peut être raisonnable. Sauf qu'en fait.
Il voulait pas partager sa beuh, mec.
Non, parce que très vite, il a dit. Tu sais, il fumait son joint, il le posait, puis il disait je vais aux toilettes. Mais okay. Il me faisait très bien comprendre que c'était le moment où il fallait que je tire mes lattes, quoi. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à fumer finalement plus régulièrement parce que j'étais dans un environnement où le cannabis était très présent, même dans le lieu de vie, tu vois.
Ok, ouais, c'est ça.
Et ensuite, j'ai vécu avec lui. Donc là, on fumait les deux finalement.
Ah, t'as vécu avec l'ex, avec le copain de ta sœur?
Et ma sœur, ouais. On a vécu les trois ensemble quand j'avais, je pense, 16-17 ans.
Ah, ok, ok.
Donc,
ta sœur fumait aussi?
De temps en temps, très rarement.
D'accord.
Ouais, c'était pas.
Je l'ai connu, du coup, l'ex maintenant de ta sœur.
Bah oui, c'est Favo.
Non.
Ouais.
C'est sérieux? Mm-hmm. Favo de Genève?
Bah ouais, Favo de Genève, ouais.
Mais c'est vrai, mec?
Ouais. J'ai vécu avec eux pendant 3 ans. Ou... Explosion.
Mais sérieux, mec?
Ouais, je te jure.
Ah putain, le truc de.
Ouais, c'est mon grand frère.
Aucune idée. Je n'avais aucune, strictement aucune idée.
Ouais, on ne l'a jamais parlé, en fait, ouais.
Tout ce dont on parle, en fait, on n'en avait jamais parlé, en fait.
Ouais, exactement.
C'est marrant,
ouais.
Parce qu'on a parlé de 1 milliard de trucs. On a parlé
de notre vision du monde, mais pas de notre vie, en fait, ou de nos vécus.
C'est vrai.
Ouais. Mais ouais,
ça, c'est intéressant aussi. Bref.
Deux. Vas-y, dis.
Je sais pas, je trouve marrant que.
Ouais, on s'est jamais livré sur nos. Ouais.
Je sais pas si réellement, en fait, En vrai, si je connais vraiment la vie des gens avec lesquels je passe beaucoup de temps, tu vois, au final.
Mm-hmm.
Parce que je partage des expériences avec eux. Et du coup, la partie de leur vie que je connais, c'est ce que j'ai vécu avec eux, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais tout leur passé, en réalité, je le connais en fait pas réellement non plus, en fait.
Ouais, moi aussi, la plupart des gens, c'est vrai que c'est pas quelque chose que. Ça reste s'ouvrir à l'autre, donc tu vois.
Ouais.
Des fois, on a tendance à vouloir garder. Mais c'est juste qu'on n'a pas eu l'occasion, qu'on n'a pas abordé les sujets, quoi.
Putain, trop stylé. J'adore. Du coup, continue à raconter ensuite, genre.
En fait, avant de vivre avec Favo, je viens de capter, et ma sœur, ma mère, elle m'a grillé. Donc il y a eu ce moment où ta mère elle comprend que tu fumes des joints, quoi.
Okay.
Parce que j'étais allé choper, donc c'était c'est compliqué. En fait là ma sœur vivait avec Favo. Mm-hmm. Et moi j'allais souvent chez eux, mais je vivais encore avec ma mère. Et là je fumais pas encore tout seul. Et une fois, j'ai été choper mon cannabis parce que je voulais avoir mon cannabis. J'ai fumé avec le gars qui me l'a vendu. Et quand je suis revenu, ma mère, elle a instantanément grillé, quoi.
Ouais.
Genre en mode, colère, tout ça, parce que elle voulait pas que je fume. J'étais sans doute trop jeune et tout. Mais ma maman, elle a toujours été pas laxiste, mais elle m'a toujours plus ou moins laissé faire ce que je voulais. Ce qui fait que 4-5 mois après cette découverte, je vais emménager avec Favo et ma sœur. Et on commence à cultiver, quoi. Donc alors là, niveau cannabis, il n'y avait plus d'aller acheter. On avait nos plantes, on consommait de plus en plus. Et ça allait très vite, en fait. Je suis passé très vite de fumer avec mes potes à avoir ma propre plantation et fumer mon cannabis quand je voulais, sans aucun contrôle parental, en fait. Personne qui va me dire non. Ou...
Ouais.
Donc ouais, donc là, je me suis retrouvé à vivre avec Favo et ma sœur. Et là... Bah là c'est parti quoi.
En fait j'ai l'impression il y a deux choses en fait sur lesquelles j'aimerais revenir.
Pause.
La première c'est.
Tu penses pas que le train.
Ouais, je pense qu'on m'entend mais dans le doute on va meubler.
Ah vas-y, mec,
comment tu sens le soleil sur ta peau là en ce moment.
Brouhaha.
Première question c'est vis-à-vis du moment où il y a eu la première entrée du cannabis dans le lieu de vie. Je pense que c'est un moment qui est assez qui marque quand même une différence, tu vois, entre le moment où tu vas fumer seulement à l'extérieur ou chez d'autres personnes et le moment où tu fumes chez toi.
Ouais.
Là, il y a réellement quelque chose qui se passe en fait, parce que tu vas faire des associations. En fait, tu fais l'association entre ton lieu de vie.
Tu commences. Ouais.
Et la beuh. Et à ce moment-là, c'est réellement le moment où. En fait, la weed.
Ouais,
c'est...
Où tu lis les. Ouais.
Ouais, où tu peux vraiment lier les deux et puis où tu. Bon, en réalité, tu vois, avec la weed, tu peux vraiment arriver dans cette spirale où tu fumes tous les jours, ce que tu peux pas nécessairement faire avec d'autres drogues, tu vois.
Mm-hmm.
Au sens où la beuh, tu peux fumer ton pet tous les soirs ou même fumer la journée, tu peux encore relativement bien fonctionner. Alors si tu fais pareil avec du LSD ou des champis, en fait, au bout de 3 jours, tu peux pas tout simplement,
ouais,
tu vois.
Bon, après, il y a plein de drogues que tu peux consommer tous les jours et qu'on, ouais, y en a quand même plein.
Mais la weed, elle a ce côté un peu parmi toutes les drogues qui existent, j'ai l'impression. Enfin, même parmi toutes les drogues qui existent, je dirais. Hormis, bien sûr, classicos, caféine et alcool qui sont largement acceptés, et nicotine aussi.
Mm-hmm. Oui, alors dans ce cas, ouais, je vous parlais de celle-là. Ouais.
Mais parmi les drogues illégales, disons, c'est la drogue la plus consommée et c'est celle qui est la plus. C'est le plus socialement. Enfin, c'est mieux vu si tu dis que tu fumes de la beuh que si tu dis que tu consommes de la coke ou tu prends régulièrement, des extas ou autre, tu vois. Genre la beuh, ça passe encore.
Ouais.
Du coup, rapidement, si tu le fais rentrer dans ton lieu de vie, j'ai l'impression que t'as ce truc. Mais en fait, ma vraie question, enfin, l'autre question qui est peut-être plus. C'était pas vraiment une question en fait, ça. La question que j'ai, c'est. Toi, est-ce que, à partir du moment où tu as commencé à fréquenter d'autres gens qui fumaient de la weed, tu disais que les jeunes de Founet, tu as commencé à fréquenter des mecs qui fumaient de la weed depuis plus longtemps, est-ce que tu as remarqué quelque chose au niveau de la dynamique du groupe entre ces amitiés que tu construisais autour de la weed et les amitiés que tu avais avant ça, ou alors peut-être juste les relations que tu avais avec les gens de ta classe avant du coup d'intégrer un groupe de fumeurs de weed? Comment est-ce que. Comment la dynamique de groupe, elle changeait entre un groupe de fumeurs de bleu et un groupe de non-fumeurs?
Le point commun du groupe de fumeurs de weed, c'est la weed, en fait. Donc, à partir de là, tu peux avoir des avis, des opinions différentes, tu peux... En fait, comment expliquer? Quand t'arrêtes de fumer et que tu te retrouves dans ces groupes de fumeurs du weed, tu te rends plus facilement compte qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de points communs autres que le cannabis, quoi.
Mmh.
Le cannabis rallie facilement les gens. Et puis, c'est un endroit où on va tous se retrouver pour se défoncer. Donc,
t'as un but commun en fait.
Ouais, y a pas de but commun en fait. Non, c'est pas un but de se défoncer. Ouais, oui, c'est un peu un but.
Se défoncer ou alors pécho de la weed ou alors aller chercher de la bouffe.
Exactement.
Ou
mais
genre de trucs,
ce qu'on veut faire, c'est fumer des joints, quoi. Donc du coup, on partage ça, mais presque que ça malheureusement, quoi. C'est un peu ce que j'ai remarqué, tu vois.
T'as souvent remarqué que, parce que moi j'ai remarqué que quand j'ai arrêté de fumer de la weed, j'ai beaucoup de relations en fait qui étaient. J'ai réalisé qu'il y a plein de relations que j'avais qui ont simplement pas continué en fait parce qu'elles étaient beaucoup axées autour de la beuh. Toi, t'as remarqué parce que du coup t'as arrêté.
Ouais, c'est ça que je dis. Ouais.
Quand t'as arrêté de fumer de la weed, c'était quand? C'était
la première fois.
Ouais.
C'était il y a 5 ans, 4-5 ans.
Est-ce qu'on arrive du coup à cette période il y a 5 ans ou est-ce qu'il s'est passé encore d'autres choses à partir du moment où
tu cultivais
avec Favo et
ouais, alors là, je fumais de plus en plus en fait et un moment de ma vie où je me suis dit pour ma santé, c'était plus pour ma santé que pour ma tête. Faudrait que j'arrête de fumer, quoi.
Donc santé physique.
Ouais,
en fait,
ouais. Poumon, endurance. Pour la santé, quoi.
Parce que tu faisais du sport à l'époque ou tu faisais endurance?
J'ai toujours fait un peu de sport, mais pas plus que ça, quoi. Et j'ai commencé le crossfit quelques mois avant d'arrêter la weed, donc il y a 5 ans. Et le CrossFit a été un peu le déclencheur qui m'a fait me dire, bon, maintenant j'arrête et je me consacre au sport et à faire les choses différemment. Et je prends soin plus de moi. Et puis du coup, j'ai commencé à faire pas mal de sport et du jour au lendemain, j'ai arrêté, quoi. Facile.
Mec, c'est incroyable, j'ai enregistré un épisode de podcast avec Eric hier. Mm-hmm. Et il racontait comment lui, et du coup, c'est aussi mon cas, mais comment même pour lui, en fait, le sport, ça a réellement été le premier pas dans la direction de prendre en compte le toi du futur. Parce que tu fais du sport.
Le son futur.
Le soi futur.
Oui, ouais.
Tu vois, genre en mode, tu fais du sport, là t'en chies maintenant, mais t'en chies maintenant pour demain ou pour avoir des résultats, des progrès par la suite plus tard, tu vois. Et tu prends aussi conscience de ton corps. Et moi, en fait, quand j'ai arrêté de fumer avant de commencer la fac de droit autour de 22 ans, toi, t'avais quel âge du coup cette fois où t'as arrêté de fumer?
Bah, du coup, j'avais 23 peut-être.
Ok. C'est plus ou moins les mêmes périodes en fait quand on a arrêté.
Ouais, ouais.
Mais je crois que t'as arrêté avant moi.
T'as ce souvenir, moi je me souviens pas, je t'avouerais qui a arrêté avant qui.
Je crois que t'as arrêté avant, parce que...
Bah, si tu te souviens qu'à la gare tu m'as dit on va fumer un joint et que je t'ai dit non, il y a de grandes chances que oui.
Ouais, je crois que t'avais arrêté avant moi. Et moi en fait j'ai arrêté, et j'ai arrêté en fait en réalité quelques temps après avoir aussi commencé le sport. Mm-hmm. Donc j'ai aussi
cette démarche de... Ouais, de prendre en main et niveau corporel, et du coup fumer ça marche pas quoi.
En fait tu prends conscience de ton corps en fait.
Ouais, ouais.
Tu vois, tu prends conscience que... t'habites un corps, mm-hmm, et que tu peux en prendre soin, tu vois, tu peux avoir un impact sur l'état de ton corps demain, dans une semaine, dans un mois.
Ouais, ouais, ouais.
Et du coup ça te fait te dire que aussi il y a d'autres canaux que nécessairement genre les pompes ou les tractions, mais aussi peut-être avec ce que tu manges ou avec ce que tu mets dedans.
Ouais, ouais.
Parce que moi aussi j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais après avoir commencé à faire du sport. Mm-hmm. C'est le sport qui a amené le tout.
Moi la démarche de manger, de l'alimentation, c'était moins, mais effectivement je vois bien qu'il y a pas mal de choses qui ont changé avec le sport. Et après j'ai recommencé à fumer.
Mais quand alors mec, mec, t'aurais pu laisser un peu de suspense, Pac. Mais question juste, peut-être un truc qui peut être intéressant. En vrai c'est bon, on entend très bien, je pense.
Oui, je pense que.
Question qui peut être intéressante, c'est toi quand tu fumais genre tu mélangeais toujours de la weed avec du tabac.
Ouais, j'ai jamais fumé pur.
Ok.
Donc il y a une addiction au tabac qui était très présente.
Ouais.
Et si je me projetais, ou si je me disais, oh, je vais fumer un joint pur, c'était non, sûr que non.
Mais pourtant, tu mettais peu de tabac, vraiment.
Alors, je mettais peu de tabac, mais suffisamment pour mon idéal, quoi, de joint finalement.
Okay.
C'était pas. Alors, moi, fumer sans tabac, c'était pas.
Tu consommais d'autres manières, genre des. Putain, comment on dit, edibles, genre des spaces, je sais pas quoi, des trucs avec de l'huile.
Ah, oui, j'en avais fait pour le kiff et tout, pour vraiment avoir une grosse défonce. Puis surtout, quand t'as l'habitude de fumer, Tu t'habitues, tu deviens tolérant.
Ouais.
Du coup, oui, j'ai eu ces périodes où je me suis dit, ah oui, on va faire des space cookies un week-end et tout.
Ouais.
Mais c'était pas récurrent, c'était, okay, ouais, c'était des fois quoi.
Et des douilles, des bangs?
J'ai eu une petite période où je fumais quelques douilles, mais de nouveau, en fait, ça défonce tellement qu'il y avait quand même ce côté. Je suis HS quoi après une douille. Je suis sur le canapé, je bouge plus. Et. Ça, c'était pas mon kiff.
C'est comme te faire en fait la différence entre te boire un shot d'alcool pur ou alors te boire ton petit cocktail ou ta bière en fait.
Ouais, ouais.
Ou la bière, tu peux, il y a un côté plus convivial, tu vas plus lentement.
Ouais, exactement.
Tu peux plus.
Ton effet monte doucement, ouais, avec la douille.
Ouais.
Au moment où tu craches la fumée, c'est parti quoi.
Ouais, c'est vraiment, moi, cette première douille, mec, ça a vraiment été une expérience.
Violente.
Ah, mais ça a été très violent.
Ah, genre, quand t'es rentré chez toi.
Je suis direct rentré chez moi en fait. J'ai direct senti que j'étais dans un. Que j'étais. Je ne saurais pas comment le décrire, mais j'ai senti que c'était très très fort et que j'étais dans un état de conscience, genre complètement.
Ouais,
que j'avais jamais vécu en fait et qui était très différent de ce que je vivais normalement.
Mm-hmm.
Et j'ai senti qu'il faut que je me mette physiquement en sécurité.
Ouais, parce
au cas où, genre. Parce qu'en fait, c'était pas désagréable, c'était pas angoissant si tu veux. Mais c'était limite. C'est très violent, c'était même agréable, mais j'avais envie de pouvoir, genre. J'avais encore la conscience de me dire, en fait. Je réalise que je suis un peu moins conscient, ou disons, j'ai pas l'esprit aussi lucide, où je vois les choses tellement différemment que j'ai envie de pouvoir me relaxer en fait et juste me poser sur mon lit et juste voyager si tu veux, sans avoir à me préoccuper de si je suis en réalité couché sur la route ou truc comme ça, tu vois.
Exactement. Ouais.
Et aussi, j'avais un peu une forme de pudeur. Toi, t'avais une forme de pudeur vis-à-vis de la weed où tu voulais pas que les autres te voient défoncer.
C'est venu après. Donc, comme je te dis, au début, j'étais très inconscient avec ça, j'aurais pu croiser n'importe qui. Et après, j'ai eu cette parano sociale vis-à-vis du fait qu'on fume. Est-ce que mes yeux sont rouges? Est-ce que, surtout, est-ce que je suis en train de marcher normalement quand tu marches en ville? Je me posais la question et j'ai beaucoup de fumeurs qui m'ont raconté ces mêmes expériences. À partir du moment où tu te demandes si t'as l'air défoncé, ben c'est la catastrophe.
Ouais, ouais, ouais.
Tu commences à te demander si tu marches bien.
Tu prends conscience de tout, en fait.
Ouais, exactement. Mm-hmm. Et du coup, ouais, ça, bien sûr, je l'ai eu pas mal, quoi. Du coup, bah ouais, j'étais pas très à l'aise si j'allais en ville. J'avais un peu ce que t'as fait toi, finalement, fumer chez moi, et j'étais bien chez moi parce que j'ai pas de questions à me poser vis-à-vis de ça. Quoi,
en réalité, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'était du coup, alors nous on s'est rencontrés pendant cette période avant que t'arrêtes de fumer pour la première fois. Mm-hmm. Donc moi, je me souviens de notre première rencontre. C'était, on était au local, dans ce local à Founet, du coup, avec plein de jeunes. Dès que je suis arrivé, dès la première fois que je t'ai vu, en fait, on a direct connecté, on a direct commencé à parler. Mm-hmm. Moi, c'était justement la période où je commençais gentiment à faire du street workout. Vraiment, je venais de commencer ça.
Ah bon, on a regardé les vidéos de planche et tout ça.
Ouais, parce ensemble. Que toi, t'avais fait de la gym.
La gym, ouais.
Et du coup, on s'était direct dit, vas-y, une fois, on va aller à la gym. Parce que t'avais des sessions d'agrès, en fait, où on pouvait simplement se pointer, en fait, à Versoix et puis aller tous entraîner des trucs. Moi, j'avais même pas le handstand, en fait. Je faisais en réalité qu'un peu des tractions et des pompes dans ma chambre.
Ouais.
Et on était directement, on avait connecté autour de ça. Et puis, toutes les fois suivantes, en fait, on s'entendait là bien, mec. Parce que moi, ce qui me plaisait de fou chez toi, c'était que tu avais toujours une bonne énergie, très drôle, très rapide. En fait, tu pensais très vite, en fait. Et c'était beaucoup de réparties. J'adorais comme tu. Enfin, la musique que tu faisais, c'était trop beau. Genre, tu avais une voix, tu avais une façon de jouer avec ta voix. À l'époque, tu chantais pas trop. Maintenant, tu chantes plus. Et d'ailleurs, ça rend super bien. Mais. De rien. Mais à l'époque, t'avais un style, si tu veux, le style Xumaruns, comme on l'appelait.
Oui,
si
le gros warrock.
T'allais chercher, genre, la voix au fond. J'aimerais peut-être mettre un petit extrait, genre maintenant, d'un de tes sons, on choisira lequel, mais je mets un petit extrait, c'est une petite pause publicitaire que les gens pourront
des sons à l'ancienne.
Comme ça. Mais pas forcément des sons à l'ancienne, mais j'aimerais mettre un des sons qu'on choisira. Donc voilà.
Yeah. Plus rien à foutre de leur avis. J'fume mon bozo sun, j'suis ravi. Ouh, j'aime pas les bourges de ma vie. Plus personne me faune, j'suis hors ligne. Ouh, j'préfère ma détresse seule. Fais ma route si tu vois un mec seul, c'est peut-être Xumaruns. Le psy m'a dit faut des médicaments. Moi j'ai dit nanananananana. J'resterai fou car apparemment, mon cœur me dit qu'il n'est pas rassuré. J'reste enfermé dans ma roomie. J'fume un gros spliff et puis j'oublie, hein. Ce que j'vais vous dire, j'ai déjà tout dit. J'ai plus de weed, j'crois j'ai tout mis. Oh, puis j'fais de son. Depuis 16, puis je suis dans le fond de la classe. Je ferme les yeux, mais j'écoute ce qui se passe. Richesse, kiffe tous les chiens de la casse. Je ferme les yeux, mais je vois ce qui se passe.
Il y a eu cette période où toi t'as arrêté chrono, on se voyait un petit peu moins, et puis moi je suis parti dans le crossfit. Et là j'ai arrêté de fumer pendant 4 ans.
Ok.
Et j'étais à fond dans le sport et tout ça. Et puis ensuite j'ai arrêté le crossfit. Et j'ai recommencé à fumer.
Mais quand t'as arrêté de fumer cette première fois, comment tu le décris? T'as arrêté du jour au lendemain?
Ouais, c'est d'une facilité déconcertante.
Ok.
Comparé au témoignage que j'aurais pu avoir de certains potes qui, eux, ont beaucoup galéré à arrêter de fumer, cette fois-ci, quand je faisais du crossfit et tout, en fait, j'avais un mindset qui m'a vraiment aidé à arrêter de fumer parce que j'étais en mode, ma santé, je veux aller de l'avant, je veux être bien, donc physiquement surtout.
Ouais, je pense que, vas-y, continue à décrire ça, c'est très
intéressant. Et puis, le fait de faire du sport et d'en faire 4-5 fois par semaine faisait que j'avais aussi moins de place pour le cannabis.
Ouais.
Et je me suis assez facilement retrouvé à me dire c'est bon, j'arrête.
Tu sais, c'est marrant parce que cette histoire de ma santé, il faut que j'aille bien, tout ça, d'être dans la théorie, ça on l'a tous, tu vois. Tous les gens qui ont envie d'arrêter de fumer, ils l'ont. Ouais. Par contre, toi, ce que tu vivais dans ce moment-là, c'était où concrètement, t'étais en train de faire des actions pour aller mieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc concrètement, t'étais déjà en train t'étais déjà dans la logique je prends soin de moi. Quelque part.
Ouais, exact.
Et je pense que c'est un truc qui fait vraiment la différence, tu vois. Par rapport à beaucoup de gens qui sont là, il faudrait que j'aille mieux, donc il faudrait que j'arrête de fumer. Ouais, il n'y a pas tout le système qui est mis en place où je commence à aller mieux, tu vois. Mm-hmm. Moi, ça, c'est un des trucs que je suis en train de. Je travaille beaucoup là-dessus, en fait, sur ce programme, cette méthode que j'ai envie de mettre en place pour aider les jeunes à arrêter de fumer. Là, mon but, c'est vraiment d'avoir un maximum de témoignages de la part des gens, essayer de comprendre les patterns, si tu veux, parce que moi, j'ai mon expérience, celle de mon entourage. Et c'est un truc qui s'étale sur 15 ans, c'est beaucoup, mais je me dis, plus je réussis à récolter de témoignages différents, de personnes différentes, plus je vais réussir à comprendre en fait les points communs et ce qui fait que tu te dis que t'as envie d'arrêter de fumer, que tu réussis ou que tu réussis pas, et aussi que tu reprends. Donc toi, t'as arrêté de fumer du coup comme ça.
Ouais, alors c'était un peu, tu sais, j'y pensais, hein, les jours d'après, j'y pensais, mais c'était pas dur en fait, c'était.
D'accord.
En mode, mais je veux pas refumer, tu vois.
Et tu continues à faire du crossfit du coup.
Et j'ai continué à faire du crossfit, et puis après, j'ai gentiment arrêté le crossfit, et en fait. je pense que j'ai été un peu influencé par le crossfit, par tu sais, il y a eu un mouvement vis-à-vis de ça, toujours aujourd'hui. Et puis je me suis rendu compte, je pense qu'en fait non, c'est pas ce à quoi j'aspirais. Avoir un corps musclé pour avoir un corps musclé ou pour être en bonne santé, c'était pas suffisant, je pense, pour me projeter. Puis j'ai arrêté de faire du crossfit. Et puis quelques temps après, bah, je pense que j'ai commencé à m'ennuyer en fait. Et j'ai revu un pote qui fumait et j'ai racheté de la weed. Non, pardon, j'ai commencé à fumer un petit peu en soirée de la CBD, ce qui m'a donné un petit pas pour recommencer la weed. Et ensuite, un jour, j'ai fait ouais, c'est bon, je rachète de la weed et c'est reparti. Ouais.
Mec, tu sais que genre la dernière fois du coup que j'ai repris sérieusement la weed, c'était du coup en fin d'année passée. Mm-hmm. Ça s'est littéralement passé, c'était le même pattern.
Okay.
C'est moi qui me suis fait une putain de blessure. Enfin, j'avais déjà une blessure au cou à cause du jiu-jitsu que je m'étais fait à Zurich, Et là, j'étais à Barcelone, je me refais cette blessure au cou. Je commence à, je dois arrêter le sport. Du coup, donc j'ai le sport qui se barre de ma vie.
Ouais.
Et ça a tout déséquilibré en fait. Je suis allé voir un chiro qui commence à essayer de me remettre mon cou en place, tout ça. Mon chiro, il me fait ouais, tu pourrais prendre de la CBD si tu veux pour détendre en fait tous les muscles du cou, parce qu'en fait j'avais tous les muscles qui étaient genre hyper tendus. En réalité, c'était pas une blessure, c'était genre juste une espèce de comme une tension, méga comment ?
Une tension musculaire.
Ouais, comme une méga courbature si tu veux au niveau du cou, et tous les muscles ils étaient comme ça en fait, et ils pressaient sur la colonne vertébrale et sur les qu'on appelle ça, sur la moelle épinière, et vu qu'il y a plein de terminaisons nerveuses à ce niveau-là en fait, c'était ça qui causait la douleur. Donc il fallait vraiment que tout ça se détende.
Ouais, ouais.
Et du coup, il me dit tu peux prendre, j'étais sous antidouleur, anti-inflammatoire, c'était très douloureux hein, je pouvais plus bouger. Genre les matins, ça me prenait littéralement les premiers matins, ça me prenait 15 à 20 minutes de sortir de mon lit parce que j'ouvrais les yeux. Et ma tête, je la bougeais un tout petit peu, mais ça me
ça te fait incroyable.
Ouais. Du coup, je devais attendre déjà 5 minutes sans bouger, tu vois, essayer de faire des mini mouvements. Ensuite, je devais essayer de porter ma tête un petit peu. Enfin, j'étais un handicapé en fait, tu vois, vraiment.
Ouais, ouais.
Alors que je prenais anti-inflammatoire, anti-douleur. Et là, je me suis dit, ben, en fait, je vais fumer de la CBD aussi pour détendre le truc. Alors, j'aurais très bien pu la consommer sous forme d'huile ou autre, mais genre quand il m'a dit tu peux prendre de la CBD, je sais pas pourquoi j'ai pensé à fumer. Donc j'ai acheté de la CBD, ouais, j'ai acheté du tabac. Hein?
J'aurais fait pareil si on me dit tu peux prendre de la CBD, j'aurais pensé.
Ouais, j'ai direct, ça m'a direct vu. Après, j'ai partagé ça en story, tu vois. J'ai même fait des stories où j'expliquais aux gens que. Enfin, je montrais aux gens que je m'étais acheté de la CBD. Et puis, il y en a qui m'ont dit en fait, t'aurais pu prendre de l'huile, en fait. Pourquoi t'as fumé? Et là, je me suis dit, ouais, c'est vrai, je suis un peu un connard. Mais j'ai continué à fumer jusqu'au moment où, ben, genre, j'ai rencontré. Je sais pas, j'avais des potes qui de temps en temps fumaient. Et puis, une fois, j'ai fumé. Après, je me suis dit, ah, vas-y, une deuxième fois. Et puis, j'ai glissé, en fait. Ça a été arrêt du sport, CBD, parce que CBD, c'est pas vraiment de la weed. Et tu peux en prendre. Et CBD à weed.
Et dans tout ça, Max?
Max, le toi
Max,
ou...
moi, le chien.
Ah, tu sais pourquoi je dis Max, bah, je veux le dire, chien.
Je pense que j'avais recommencé à fumer quand toi... Enfin, j'avais recommencé déjà à fumer et j'étais au stud.
Ouais.
Quand toi, t'as commencé à fumer la CBD et t'as dû venir chez moi. C'est avec moi que t'as recommencé à fumer, non?
Non, 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 non. Tu dis l'année passée?
C'est l'année passée, ça?
Ouais, ouais, c'était l'année passée.
Oh, wow,
alors,
okay.
Bon,
non, non, okay,
alors,
okay.
Pour recontextualiser, alors j'ai pas trop envie de spoiler parce que ma vidéo sur la weed, mm-hmm, celle où je raconte qui s'appelle La weed a changé ma vie, je m'arrête en fait au stade où la première fois que je réussis en fait à arrêter de fumer. Donc, okay, le moment où, ouais, je commence la fac de droit. Ouais, et de, ouais, là, en fait, j'ai,
ah,
par,
ouais,
et ce que j'explique dans cette vidéo, c'est que à plusieurs reprises, j'ai fumé. Ça m'est arrivé de, mm-hmm, fumer plusieurs fois. Mais il y a eu vraiment deux périodes où pendant longtemps j'ai fumé et ça a été vraiment des périodes très compliquées parce que j'essayais d'arrêter et j'arrivais pas.
Et parce que cette période, on se côtoyait beaucoup.
Ben, une des, ben,
et
une
chez
des
moi,
périodes
tu
qui était très longue.
Beaucoup,
ouais,
du coup.
Alors quand j'étais, en fait, ça, c'était un des trucs, un des points communs. À chaque fois que je revenais chez mes parents, que je visitais mes parents pendant, mm-hmm, quelques jours ou jamais, j'ai fait plus que quelques semaines parce que ça m'angoissait, en fait, d'une part, de pas avoir un univers à moi que je contrôlais, si tu veux, parce que, quand t'es chez tes parents, tu dois avoir tes règles, ouais, et tout. Et puis aussi, j'ai réalisé qu'à chaque fois que j'étais ici, bah, je te voyais toi. Et puis vu que je t'associais à la beuh, bah, à chaque fois on fumait. Et je sentais qu'il fallait que je reparte d'ici. Mm-hmm. Parce que si je restais trop longtemps ici, bah, je continuais à fumer, tout simplement, ouais, parce que j'étais avec toi. Mais ça, c'est encore des périodes que je considère sous contrôle. Mm-hmm. Parce que je me barrais, mais j'ai eu vraiment une période où pendant 9 mois d'affilée, j'ai refumé. Entre la fin de mon bachelor en droit et le début de mon master, c'était la période où j'habitais avec Luana. Donc, mm-hmm, je me suis mis en couple avec une fille qui,
ouais,
elle fumait tous les jours. Donc, je fumais aussi tous les jours avec elle. Et ça, ça a été horrible, en fait. Parce que je me suis dit au début, vas-y, c'est bon, je peux fumer, c'est le début de l'été.
Et c'est parti, quoi.
Ce sera juste l'été. Et ensuite, à la fin de l'été, bah, j'arrêterai. Et en fait, à la fin de l'été, j'ai pas du tout réussi à arrêter. Donc, ça a été très compliqué.
Ouais, ouais.
Bref, je détaillerai ça dans une future vidéo si ça intéresse les gens. Et la fois suivante, ça a été à cause de cette blessure, du coup, à Barcelone, fin d'année, où ensuite, quand je suis revenu ici en Suisse en décembre, bah, je t'ai vu. Et puis, on a fumé aussi ensemble.
Tu faisais attention, par contre.
Je faisais attention à quoi?
Tu faisais attention à la quantité et...
Ouais, mais ça, j'ai toujours fait, parce que vu que j'ai jamais fumé énormément, même si je fumais, tu vois, tu m'as toujours dit que je fumais des... C'est parce que tu m'as dit que je fumais des cigarettes avec de la weed, en fait.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire que moi, il y a aussi, hein, j'ai aussi fumé des clopes pendant longtemps, pendant genre 7 ans. Donc, quand j'avais ces périodes où je reprenais la beuh, si tu veux, il me fallait pas beaucoup de beuh pour être défoncé. Donc, je préférais pouvoir tenir 3-4 pets sur...
La soirée.
Ouais, ouais. Et du coup, je mettais vraiment un petit peu de beuh et comme ça montait. Bref, je suis là, j'avais pas envie de m'exploser le cerveau dès le premier pet. Donc, ouais, je mettais pas beaucoup de weed, mais je fumais pendant toute la soirée, tu vois.
Ouais, puis tu finissais défoncé, quoi.
Ouais. Bah, je raconterai plus de mon expérience,
oui.
Si tu veux, et puis peut-être aussi comment moi je vivais le truc avec toi. Peut-être je te réinviterai, enfin, très certainement, je te réinviterai parce que t'as une grande part aussi dans mon expérience à moi, tu vois.
C'est ma faute, en fait.
Ouais, merci, enfin, voilà. Bah, alors, c'est pour ça. Donc toutes les vidéos que vous voyez en description, vous allez dessus et vous laissez des messages d'insultes. Voilà, pour
ça
moi. Et après, je ferai plus de vidéos YouTube. Voilà.
Ça flemme, c'est ma faute.
Exactement. Mais du coup, toi, du coup, tu arrêtes le CrossFit.
Je recommence à fumer. Mm-hmm. Et là, ça a été la période la plus... Ma relation la plus...
Mauvaise.
Forte avec la weed, ouais.
Forte. Vas-y, décris ça.
Bah, j'ai recommencé à fumer assez vite, beaucoup. Donc au début, un petit joint, j'étais complètement défoncé parce que bah, j'étais de nouveau plus tolérant à ça. Mmh. Et là, une période où j'ai beaucoup de colère contre le monde, contre moi-même surtout. Je me retrouve dans un boulot... Le boulot ne me déplaît pas, mais les collègues, ça se passait pas bien, quoi.
Juste, t'avais quel âge quand t'as commencé le CrossFit, quand t'as arrêté le CrossFit, juste chronologiquement?
23 ans, peut-être, quand j'ai commencé le CrossFit. 24, 25, 26. J'ai arrêté jusqu'à 26, 27 ans.
Ah, t'as arrêté pendant 3 ans?
Ouais, il me semble que c'était un bon.
Ah,
un
ok.
Bon stop, ouais.
D'accord. Putain, mais en fait, t'as arrêté pendant toute la période où moi non plus je fumais pas, où j'étais en fac de droit, en fait.
C'est vraiment été
cette période où on se voyait beaucoup moins, du coup. On avait
mais je suis venu quelques fois te voir, et puis là, j'avais pas de.
C'est vrai, mec.
J'avais pas pris de weed.
Ouais, je me souviens.
C'est là où t'as acheté tes barres jaunes, là. Et...
Ouais, on faisait du sport.
Ouais.
Pas mal de street.
Et après, bah, justement, j'ai recommencé quelques temps après ça. Et...
Vers les 26 ans, par là?
Ouais, je dirais. Ouais, par là. J'avoue que je peux pas te dire. Temporellement, je suis pas certain, mais oui, c'est approximativement ça.
Ok.
Et j'ai recommencé à fumer. Ouais, de plus en plus. Le boulot où j'étais, ben, le problème, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui. A peur du rejet, je pense, donc du coup je dis pas les choses aux gens comme je les pense. Donc si quelqu'un me fait chier ou quoi, je vais pas lui dire tu me fais chier, je vais garder le poing dans la poche, je vais prendre sur moi. Et ce métier là cette période de ma vie, j'ai appris que bah, il faut dire les choses aux gens quand... Enfin, il faut pas être agressif, il faut juste dire les choses aux gens quand t'es dérangé ou quand quelque chose va pas. Et le cannabis c'était mon échappatoire, quoi. Je rentrais du boulot, je fumais de plus en plus, et ouais, je fuyais tout. Tous les conflits, les relations compliquées, tout ça, je fuyais. Et je me suis mis à fumer de plus en plus.
Et je comprends pas. D'une part, tu disais les choses aux gens.
Non, justement pas.
Ah,
je disais pas les choses.
Tu réalisais que tu devais le faire.
Ouais, mais je le faisais pas.
Mais tu le faisais pas. Ouais. Et, okay,
donc d'accord. Je me faisais marcher dessus par les collègues.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Je disais rien et... Et ouais, j'étais pas bien en fait dans ma vie vis-à-vis de ça parce que je communiquais pas en fait. Et à la maison, je fumais de plus en plus, je me suis renfermé de plus en plus, je suis devenu de plus en plus négatif. Enfin, il y a trop de choses qui ont changé et le cannabis ne m'aidait pas parce que c'était une excuse pour ne pas avoir à le faire. Comme quand je rentrais, j'étais pas bien, je fumais, j'étais bien, bah, j'avais aucune raison de dire aux gens ce que je pensais, d'aller de l'avant au niveau communication et social, je sais pas si tu me suis.
Ouais, mais,
oui.
Mais okay. Ça peut pas être plus clair. En fait, j'ai l'impression d'être dans ta tête, donc
voilà, ok, ouais, c'est bon. Et du coup, bah voilà, je me suis mis à fumer de plus en plus pour fuir toutes ces choses. Un jour au boulot, j'ai explosé. Le jour où c'était la goutte de trop, en fait, j'ai eu des propos très violents envers mon supérieur hiérarchique et certains autres collègues. Et je suis parti, quoi. Ciao, j'ai arrêté. J'ai littéralement arrêté de bosser. J'ai dit. fuck le reste du monde. Et voilà. Là, je suis rentré dans du 3 ans de chômage. Enfin, entre guillemets. Mais le problème, c'est qu'au chômage, j'ai eu les mêmes conflits avec une personne qui était censée être l'autorité, mais qui n'était pas bienveillante. Donc, les conseillers, tu vois, mm-hmm. du chômage. Je me suis pris des punitions, des « on te paye plus pendant un mois », des trucs qui sont le contraire d'aider un jeune à se réintégrer. Et du coup, j'avais une colère contre les hiérarchies, contre la société, contre tout ça. Et je me suis... Jusqu'au social. Le social, pour moi, c'était déjà trop compliqué, en fait, d'aller en rendez-vous social. J'avais l'impression qu'on était contre moi et tout. Du coup, bah... J'ai arrêté de payer mes factures, j'ai arrêté de m'intégrer dans la société, j'ai arrêté de bosser, j'ai resté chez moi 24 sur 24.
Tu t'es dit, en fait, ce jeu, c'est de la merde, en fait, j'arrête de jouer à ce jeu.
Fuck votre jeu, exactement. Ouais. Et je me suis mis à fumer de plus en plus.
Ok.
Augmenter mes dettes, je pense que je dois toujours des sous à un de mes fournisseurs.
T'es arrivé jusqu'à combien de dettes ?
Là, je dois 3000 francs à un de mes fournisseurs.
Mais
t'es monté 150 à un autre, donc ça va. 150.
T'es monté jusqu'à combien ?
C'est ce que je crois que c'est 3000 le max que parce que je trouvais toujours des sous pour essayer de pas faire monter les dettes.
Okay.
Et quand j'avais des sous ou quand je trouvais un moyen de trouver des sous, bah c'était bon.
Ouais.
Et puis les 3000, c'est vraiment toutes les périodes où je savais pas et que je prenais à cred. Et ouais, c'est parti.
Tu prenais des crédits à genre qui ?
Bah mon dealer.
Ah mais tu dis dette de weed en fait.
Alors non, j'avais les dettes pas de weed et les dettes de weed. 3000 francs, c'est les dettes de weed.
Ah, t'as fait 3000 balles de dettes de weed.
Oui, ouais.
Et les dettes
de pas weed, c'est j'étais encore aux poursuites, défaut de biens,
ouais.
Avis de saisie, enfin tout ça. Là, j'ai encore tout ça. C'est genre,
chaque mois, ça partait plus haut. Ah ouais,
je n'ouvrais plus les lettres. Simplement, je les laissais s'accumuler et fuck. Et puis, je sais très bien que, entre guillemets, je suis bientôt sorti de ça. Maintenant, il faut que je retrouve un boulot et tout. Mais je suis encore, tu vois, dans le après ça. Là, j'ai un petit boulot. Il faut que je trouve un nouveau boulot. Et j'ai encore tous ces schémas mentaux que j'ai laissé s'accumuler qui font qu'actuellement, j'ai de la peine à chercher un boulot. Mm-hmm. Parce que j'arrive pas à me projeter en mode, je vais réussir à faire les choses bien et je vais trouver un environnement bienveillant, entre guillemets. Parce que j'ai juste besoin de bienveillance, je pense. Et voilà, je suis encore dans un peu ça, mais là, je sais que je vais m'en sortir et ça va aller, quoi.
Tu permets qu'on s'attarde un peu plus sur cette période ? Du coup, comment est-ce que tu es vraiment rentré dans cette période où à partir du moment où tu as quitté ton taf, parce que tu as pété un plomb sur les collègues,
ouais.
Et comment, à partir de là, genre quand tu es rentré au chômage, vraiment cette période où tu es rentré au chômage ? Parce que moi, c'est une période où, frère, c'est la période, je pense, où toi et moi, on a eu le plus de conflits. Alors, ça a été.
Ouais, ouais.
Bah, ça a été...
Ah, mais deux. Noir et blanc, hein. Toi et moi, on a été deux opposés au mindset, tu vois ce que je veux dire.
Frère,
c'était je plonge et je me laisse tirer vers le bas. Et toi, c'était mais l'opposé. C'est je dois être tiré vers le haut, je veux m'entourer de gens qui vont vers le haut. Et du coup, on a gardé cette relation. C'est ça qui est intéressant dans notre relation, je pense. C'est qu'on avait deux visions différentes et deux schémas.
Et ce qui est marrant, c'est que, comme tu l'as dit au début du podcast, c'est qu'on avait la weed en commun. Parce que quand on se voyait, on se voyait pour la weed. Et à chaque fois qu'on fumait, on parlait de la vie.
Mm-hmm.
Et on avait des visions de la vie, mais qui étaient radicalement opposées.
Mais genre, même sur certains points aujourd'hui, je pense que c'est...
Encore, complètement. Ouais. Mais en fait, la weed, c'est ce qui nous réunissait et c'est ce qui nous permettait de communiquer autour de ça, tu vois.
Ouais.
Et je pense qu'on n'aurait jamais... Enfin, on n'aurait jamais été potes. Tu vois, genre moi, je peux avoir toute la bienveillance du monde, tout l'amour du monde pour une personne qui voit les choses d'une manière très négative et qui partage pas les idées que je partage. Au bout d'un moment, j'ai pas de temps à perdre, entre guillemets, à aller Enfin, au final, tu vois, genre on le fait tous, on s'associe avec des personnes qui nous ressemblent, qui partagent des passions avec nous, qui partagent des idées, qui font le même sport que nous, tu vois, genre... Mm-hmm. On va pas s'associer avec des gens qui ont rien à voir avec nous, si tu veux.
Ouais,
nous, heureusement qu'on avait la weed, parce que du coup, on a vraiment beaucoup plus parlé. Mec, toi, tu me remettais beaucoup en question aussi, en fait.
Eh bah, la même dans l'autre sens. Hein.
Ouais, on avait vraiment.
On a déjà beaucoup de fois dans nos conversations pris la mouche, notamment à cette période. Et on sentait, mais on ne s'est jamais engueulé, en fait.
Ouais, c'est ça. Mais quand je dis qu'on avait des périodes de tension et de conflit, moi, je pensais pas nécessairement au moment où on avait des conversations, on n'était pas d'accord et où on prenait la mouche. Ça arrivait. Prenez la mouche, j'ai jamais dit ça. Genre, je te jure, j'ai dit le mot, j'ai dit les sorties d'expression, et j'ai dit, prenez la mouche. Oh, c'est marrant que la bouche, elle fasse ses sons. Prenez la mouche. Bref.
Mais prenez la mouche. Vas-y.
Mais en fait, moi, je pensais pas à ça, mais je pensais à des moments où réellement, où moi, je voyais ce que tu vivais. Si tu veux, ça me faisait souffrir comme pas possible. Et je savais pas en fait comment je devais me comporter avec toi, tu vois.
Ouais,
je savais pas si la meilleure chose à faire c'était de te dire, frère, genre. Stop, genre ouais. Stop, genre je peux plus te voir, genre si tu commences pas à prendre soin de toi, si tu veux, ou alors s'il fallait que je sois là, si je savais même pas si le soutien que j'essaie d'apporter ici servait à quelque chose ou autre. Et il y a eu plein de fois où justement, il y a une fois, mec, putain, une fois où je t'ai appelé quand tu promenais le chien.
Ouais.
Une fois où je t'ai appelé et puis
c'était là-bas, c'est pour ça que je monte là-bas.
Ouais, mais je me souviens que c'était là-bas parce que ensuite un jour on est parti marcher.
Ah
ouais.
non, c'est
non,
ça.
Je marchais derrière toi en fait.
Exactement, on était ensemble.
Et je t'ai dit, je sais plus de pourquoi on en est.
En gros, toi, tu voulais me tirer vers le haut, me dire de me ressaisir, tu vois. Et j'écoutais rien. J'étais dans une bulle de souffrance. Et genre, tu peux me dire ce que tu veux, je n'arriverai pas à le faire. J'étais très négatif. Et le moment où tu t'es rendu compte que tu pouvais rien faire, en fait, toi, ça te mettait trop mal. Et là, tu m'as dit, mec, je rentre chez moi, quoi. Et t'es parti, dans l'autre sens. Et là, alors moi, ça a été précipice.
Frère, je t'explique comment moi je l'ai vécu.
Ok, vas-y.
Ouais, il me semble que je t'ai dit moi je t'ai dit que je rentrais chez moi, tu vois.
Mm-hmm.
Et toi t'as fait, et en gros toi tu marchais. Enfin, je me suis arrêté de marcher, si tu veux. Et j'ai dit, mec, genre je peux pas, tu vois, en mode ça me fait trop. Je sais pas si je t'ai dit que ça me faisait trop souffrir ou si c'était suffisamment implicite pour que je le dise pas. Mais je t'ai dit, genre, frère, je peux pas continuer à être pote avec toi comme ça, tu vois, genre, enfin, on peut pas continuer, moi je souffre trop. Et je me suis arrêté, et toi t'as dit ok, et tu t'es pas retourné, et t'as continué à marcher, à marcher devant.
Ah, j'aurais rien pu te dire à ce moment, quoi. Je savais pas quoi dire, je savais pas quoi faire, j'étais juste dans cet état mental, tu vois. Oh, et oui, t'es revenu après, ce qui a...
Je suis revenu, mais genre
10 minutes après.
Je me souviens pas de ça, mec.
Eh ben,
mais je suis revenu, genre, je t'ai rattrapé sur le chemin.
Ouais, t'as dû. T'es parti en fait.
Ouais.
Et je pense que t'as retourné la situation et tu t'es sans doute dit la meilleure option c'est quand même que je retourne et qu'on réessaye, tu vois.
Ouais.
Et t'es revenu et le fait que tu reviennes, ça m'a.
Ouais, et en fait, quand je suis revenu. Ah, mais je me souviens.
Ça m'a refait redescendre en fait. Cette démarche que t'as fait envers moi m'a fait beaucoup redescendre et j'étais là. Bah, merci en fait.
Mais quand je suis revenu, je me suis rendu compte en fait que moi j'avais une perception de la situation qui était mauvaise aussi, parce que moi j'étais réellement arrivé. En fait, si tu veux, c'est ouf, mec, parce que maintenant avec le recul, je me dis, mais évidemment que t'étais triste et que t'étais genre au bout quand j'ai dit genre je peux pas continuer à marcher avec toi, tu vois. Mm-hmm. Mais au moment où c'est arrivé, je me suis dit, en fait, le mec il s'en bat les couilles, tu vois.
Alors c'est ce que ça transmet, ouais, ouais. Je suis totalement.
Et ensuite, quand je t'ai rattrapé et quand je suis venu marcher avec toi, on en a parlé de ça. Et tu m'as dit comment tu l'avais vécu, et je me suis dit, ouais, putain, ouais. Mais heureusement que...
C'était une interprétation, en fait.
Ah ouais, frère, de ouf.
Mais pas du tout, en fait. J'étais juste... quand t'es revenu, ça m'a soulagé de ouf, et c'est ce qui m'a aidé à remonter pendant cette marche. Parce que j'étais trop mal, quoi.
Mec, je te propose qu'on fasse de nouveau dérouler un de tes sons. Comme ça, on peut faire une petite pause, et moi, je peux changer la batterie de mon appareil, et puis déjà enregistrer ça, histoire, parce qu'on en a... presque une heure d'enregistrement.
Ouais,
comme
ouais.
Ça, on fait une petite pause son, on se boit un petit truc et puis on continue. C'est bon ?
Vas-y.
Parfait.
C'est ma vie, c'est mes plaies, je voulais pas que l'on m'aide. J'ai ravivé ma haine,
à chaque fois que je me montais, ouais.
J'ai perdu le contrôle, trop longtemps dans mon crâne. J'ai pas vu le verre d'eau qui est tombé dans mon vase. Je râle en pensant pouvoir changer les choses. Je râle en trouvant toujours plus de défauts. Le rap ignorant me fout vraiment les gants. J'aime pas votre rap à la Gucci Gang.
Je sais que le problème c'est moi, mettre la faute sur les autres. Je sais que le problème c'est moi.
C'était Je sais que le problème c'est moi par Ksou et Sid, qui est ton cousin.
Ouais.
J'ai choisi de mettre ce son parce que tu me l'as dit, en fait, c'était justement pendant cette période où tu recommençais à fumer de la weed.
Ouais.
Mais que t'avais une certaine prise de conscience vis-à-vis de.
Moi.
De toi, ok. T'arrives à te développer un peu là-dessus.
Ça fait un moment que j'ai plus ou moins compris que je vais dans ce sens. Qu'en fait, c'est jamais, ça sera jamais la faute des autres. Ça sera toujours. Toi, le problème, donc ouais. Soi-même, quoi. Et dans cette période de vie, je prenais conscience de ces choses, mais ma colère venait du fait que j'étais conscient de ça, mais que je n'appliquais quand même rien. Donc j'étais fâché contre les autres parce qu'ils avaient souvent un comportement qui me déplaisait, qui n'est pas humain et bienveillant. Et malgré tout ça, je savais que c'était à moi de faire un travail et d'apprendre à communiquer.
Mmh.
Et pourtant, je n'osais pas le faire ou je ne le faisais pas. Donc beaucoup de théorie mais pas de pratique.
Mmh.
Et
Parce que là, t'as eu cette prise de conscience vis-à-vis de toi, parce que avant, t'allais remettre en question le monde, la société et tout ça.
Tout le temps la faute sur les autres.
Mais tu prenais pas conscience que c'était toi, en fait. Que tu pouvais, toi, faire des trucs
ouais,
à ton
Ouais, j'en étais inconscient, j'en prenais pas conscience. Ouais, complètement, ouais.
Ok.
Ouais, ce jour-là, ça a été. Enfin, ce son-là, ça a été un tournant où, tout d'un coup, j'ai compris qu'en fait, il y a que moi, finalement, qui peut changer le monde, si je peux dire ça comme ça.
Ouais.
Et ça commence, comme c'est cette phrase bateau qu'on peut partager facilement, changer le monde commence par se changer soi-même. Mm-hmm. Bah, il n'y a pas plus vrai, en fait. Sauf que il faut le travailler un petit peu, quoi.
En tout cas, tu sentais que l'idée, elle avait un truc de juste. Donc, t'arrives à pressentir qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans.
Exactement.
Ouais. Mais t'étais pas au stade de l'appliquer, en fait. Et il y avait peut-être totalement. une dissonance cognitive où tu voyais cette idée qui te plaisait mais tu l'appliquais pas, tu voyais que tu l'appliquais pas et ça crée de la colère contre toi-même.
Et du coup j'étais encore dans une démarche de colère contre les autres, contre les instituts, contre l'autorité, alors que j'étais déjà en train de prendre conscience de ça,
tu vois. Moi je trouvais ça aussi assez paradoxal, tu vois, parce que là tu me l'expliques mais à l'époque moi j'avais entendu ce son et je trouvais paradoxal, tu vois, que tu t'aies l'air de prendre conscience de ce truc, pourtant dans les conversations qu'on avait,
beaucoup de remise en question du reste. Ouais, des autres.
Exact.
Ouais,
après, peut-être que ça venait aussi un peu naturellement avec moi, tu vois, au sens où peut-être toutes les objections que t'avais contre le système ou autre, tu me les balançais devant ma gueule, en fait, histoire de aussi de voir ce que j'allais répondre. Tu vois, souvent, on se sert des autres pour ça.
Ouais, exact.
Moi, je fais souvent ça avec.
C'est possible, ouais. Je me suis jamais posé la question, mais c'est vrai qu'en parlant, souvent, on arrivait sur des conflits où. Toi, t'avais un peu une vision presque il n'y a pas de problème, et moi j'avais une vision de il y a trop de problèmes, quoi. Donc du coup c'est vrai qu'on tournait autour de ça.
Ouais.
Puis si on prenait la mouche,
ouais.
On a envie de défendre ses opinions, du coup on va même dire des choses qu'on pense pas, quoi. Ça c'est voilà.
En fait c'est marrant parce que ma vision, je me sentais aussi obligé de la caricaturer pour qu'elle fasse vraiment opposition à la tienne, tu vois.
Ouais. Alors que je pense que je faisais un peu pareil.
Ouais. Alors que c'était au final, je pense que maintenant si je dois repenser à ma manière de communiquer avec toi à l'époque, c'était peut-être pas la meilleure manière de faire passer un message, parce que en soi t'avais raison sur mec, t'avais raison qu'il y avait une tas de choses qui allaient pas dans le monde, dans les institutions et tout genre de trucs. J'aurais même certainement dû commencer par te l'accorder et te dire que mec, évidemment, oui, il y a des choses qui vont pas, tu vois, mais te focaliser là-dessus, c'est pas ce qui va améliorer ni les choses ni ton quotidien à toi, et
ouais,
ça commence par toi, tu vois.
Ouais.
Mais à nouveau, voilà, c'était toujours des histoires de communication, réussir à communiquer de la manière la plus stratégique possible, tu vois, quand c'est une amitié qui est là depuis genre quasiment 10 ans, et il y a tout un énorme, c'était très, tu vois, on a eu des conversations qui étaient justement très très intenses émotionnellement, si tu veux, où les deux on a énormément d'amour pour l'autre, t'as fait un tas de trucs pour moi comme j'ai fait un tas de trucs pour toi.
Ouais.
Et frère, voilà mec, on n'arrivait pas à penser full rationnel, en fait, dans tous ces moments, c'était compliqué. Et du coup toi, pendant cette période, c'est là où on avait du coup enregistré un épisode de podcast que j'ai décidé de pas reposter, et je t'explique pourquoi j'ai décidé de pas le reposter, en fait, cet épisode de podcast qui était publié. En fait, j'avais publié cet épisode avec toi, je me souviens plus ce que c'était le nom de l'épisode, mais en gros
rêve de grandeur,
exact. Et dans cet épisode, en fait, on racontait, parce que toi t'es un artiste, tu fais de la musique, t'as souvent, à certaines périodes plus que d'autres, mais depuis que je te connais, en fait, t'as eu des moments où tu t'expliquais que tu voulais faire de la scène, tu voulais chanter, tu voulais par moments
être connu,
tu voulais être connu. Ouais. Par moments c'était un peu différent. Ce que tu voulais c'était faire des prods pour des rappeurs, tu vois. Donc tu voulais plutôt être dans le beatmaking. Par moments c'était plutôt dans le chant. Mais t'as toujours eu des rêves, en fait. Il y a toujours eu des trucs que t'avais envie d'accomplir. Et au cours de cet épisode, en fait, on avait parlé de cette espèce de contraste qu'il y avait entre ces rêves que t'avais et ta situation actuelle, qui, au moment où on a enregistré le podcast, c'était le moment où t'étais au plus bas, en fait, de je sais pas, je pense, je dirais, de ces 10 dernières années où je t'ai connu. Parce que je t'ai jamais vu, aussi mal, en fait. Je t'avais jamais vu aussi mal. Et c'est pile pendant cette période qu'on avait fait un épisode de podcast. On poste l'épisode et moi, d'une part, enfin, moi, il y a eu plusieurs choses, si tu veux. Il y a eu, d'une part, je trouvais très courageux de ta part, en fait, alors que t'étais encore dans cette période où ça allait pas, d'en parler, parce que souvent, tu vois, moi, ce que je fais, c'est, ok, ça m'est arrivé de parler de, quand je suis dans le moment où je vais pas bien, pardon, je fais une vidéo et j'en parle, mais
je trouve beaucoup plus facile et beaucoup plus simplement beaucoup plus facile en fait d'en parler quand t'as du recul, quand la période mauvaise elle est passée, et tu peux en parler et tu dis ok je suis sorti de ça, tu vois. Mais quand t'es encore dedans et publier ça en ligne, je trouvais ça très fort. Moi je me suis dit, la raison pour laquelle je voulais faire cet épisode, c'est, il y avait un peu une double raison. Une raison, c'était que j'étais certain que ça allait genre aider des gens à se sentir mieux, des gens qui étaient en train de vivre aussi une situation critique. Il y avait, tu décrivais des situations genre vraiment, enfin voilà, tu, mec, c'était un enfer en fait. T'étais juste en train de plonger chaque jour un peu plus profond. T'avais zéro thune, t'avais même plus de thune. Tu racontais dans cet épisode, t'avais plus de thune pour t'acheter du PQ, mec. Et c'est un truc que t'as dit dans le podcast. Et du coup, tu devais aller doucher quand tu terminais, les toilettes, pardon, quand tu terminissais. Et je me dis, ça va très certainement pouvoir genre aider des gens à comprendre qu'ils sont pas seuls en fait dans cet enfer, et puis qu'il y a des, en fait au final, prendre conscience en fait qu'il y a des humains qui sont en train de vivre ça. Et à la fois, je me disais que ça allait peut-être aussi, toi, le fait de le dire et le fait de t'entendre le dire par la suite, parce que tu réécouterais l'épisode, ça allait aussi te faire changer des choses, tu vois. Parce que moi, je te voyais dans cette boucle, en fait, depuis quelques années, depuis 1 ou 2 ans, je crois. Et je me disais, en fait, il faut que... Tu sais, j'étais un peu à court de solution, mec. Je me disais, vas-y, je te parle, il se passe rien. Et il y avait un peu cette double raison qui faisait que j'avais envie de publier l'épisode. Et on a publié l'épisode. Et toi, enfin, ça n'a pas eu l'effet escompté sur toi. Tu vois ce que je veux dire?
Ah, je l'ai jamais réécouté. Une gêne vis-à-vis de l'épisode et de ce que j'aurais pu dire, j'ai oublié.
Et tu me l'as dit, et ça tu me l'avais dit en plus. Tu m'avais dit que c'était un épisode qui t'avait un peu dérangé parce que je crois à un moment donné tu dis. C'est bien les gars. À un moment donné dans l'épisode tu disais. Je sais plus, mais il y avait un truc que t'avais dit dans l'épisode par rapport aux autres, du style. Tu parlais en fait du contraste de l'amour et de la haine que t'éprouvais vis-à-vis genre de ton prochain. Et il y avait un truc là-dedans, une phrase, une fois tu m'as dit, mais frère, j'ai quand même dit ça, c'est quand même chaud et tout. Et je me suis dit, mec, en fait, quand j'ai eu ce moment où j'ai changé d'hébergeur pour le podcast, où du coup j'ai dû reprendre les épisodes manuellement et les réuploader, je me suis dit, en fait, cet épisode, je vais pas le mettre, tu vois. Parce que je me suis dit que je savais pas si ça servait, si c'était dans ton intérêt aussi de republier cet épisode-là. Donc voilà, c'est un peu le raisonnement que je me suis fait. Et du coup, je l'ai pas reposté, cet épisode. Et pourquoi est-ce que je reparlais de cet épisode, mec? J'en suis un peu
étonnant. Tu voulais m'expliquer pourquoi tu l'as pas repassé, quoi.
Mais il y avait une raison. Enfin, j'ai commencé à parler de l'épisode dans un premier temps. Parce que du coup, pendant cette période, on avait enregistré un épisode.
Et c'est une période où c'était la période sombre, quoi. Enfin, là où j'allais toujours plus bas. Je sais pas.
Ok, bref. Et dans cette pendant toute cette période, moi, je me souviens de plusieurs moments assez. Je me souviens de moments où on avait. Alors, nous, on continue de se voir, tu vois. À chaque fois que je rendais visite à mes parents, on se voyait. Il y avait des moments où je sentais en fait que j'arrivais un peu à t'inspirer, tu vois.
Ouais, de ouf.
Des moments où j'arrivais chez toi, mec, je disais, frère, viens, on fait la vaisselle, et puis on faisait des trucs simples, des trucs cons, et puis on se mettait à faire du rangement et tu venais avec, et puis c'était stylé. Il y avait aussi une phrase que je t'avais dite qui était que tu m'avais ressorti, comme quoi tu m'avais dit qu'elle t'avait marqué, et ça avait trop plu en fait qu'elle était marquée d'une manière, c'était cette histoire de te réveiller dans un appartement.
Ah ouais, c'était marqué sur, je l'ai marqué sur une feuille qui est toujours dans ma chambre actuelle, quoi. Parce que là maintenant je vis chez ma tante, je sais pas si tu sais. Oui, tu sais.
Ouais, bien sûr.
Oui, bah oui, tu sais.
Mais vous savez pas.
Ouais, je vis chez ma tante parce que c'était financièrement trop la catastrophe, et du coup j'ai dû trouver une solution pour ne plus avoir à payer le loyer en plus, parce que sinon là ça partait un peu en steak. Et c'est chez ma tante que j'ai réussi à arrêter de fumer.
D'accord. Donc t'as envie de skipper un peu cette partie et tout, et puis
Je vois pas ce que j'aurais d'autre à dire. Bah c'est très période où j'ai une vision très négative du monde. Je fume de plus en plus, jusqu'à 5 à 10 grammes par jour.
5 à 10 grammes par jour.
50 francs par jour, quoi.
Mec, 50 balles par jour. Frère, on fait le calcul ça sur un an, mec.
Non, je vais avoir des regrets.
Frère, attends, juste que je rigole. 50 balles par jour sur 100 jours, ça fait 5000 balles. Sur une année, ça fait 15 000 sur 300 jours.
Plus le tabac, 65. Les cartons.
Oh, mais frère, plus le temps que passes défoncé où tu fais pas autre chose, où tu fais pas de la thune, tu vois.
Ouais.
Frère, c'est. Et tu t'en sors que avec 3000 balles de dette vers ton dealer, mec. Pas mal.
Ouais, parce que j'arrivais à trouver quelques revenus, mais dès que j'avais un petit peu de revenus, ça allait direct dans le cannabis, quoi. Pas dans autre chose que le cannabis. Pas payer mes dettes ou manger ou quoi que ce soit. C'était devenu mon alimentation première.
Je me souviens, tu mangeais pas, mec. T'avais souvent pas de bouffe. Et ça, c'est un truc qui me frappait aussi.
J'ai la famille qui a été là, qui m'a aidé. Par exemple, mon cousin m'a ramené une fois des conserves et tout. J'ai pu manger pendant plus d'un mois. Voilà. Donc ça, trop cool, quoi. Mais oui, moi tout seul, cata.
Je me souviens que tu partageais toujours beaucoup, en fait, moi, cette période. Moi, à chaque fois que je venais, putain, c'est marrant, on avait ça aussi dans notre relation. C'est que moi, j'avais pas envie d'acheter de la weed parce que je savais que si j'en achetais et que je la ramenais à la maison, chez mes parents, ouais, bah, j'allais fumer. Et du coup, quand je venais chez toi, je ramenais jamais de weed parce que j'en achetais pas. Mm-hmm. Par contre, je te laissais de la thune pour payer la weed si tu veux.
Ouais, ouais.
Et en gros, j'outsourçais quelque part un peu mon. Enfin, pour moi, t'étais une. Et c'est limite un peu pervers maintenant que j'y pense. Je me dis que limite je m'en veux parce que quelque part, je renforçais cette habitude que t'avais d'aller acheter de la weed en te filant de la thune pour que t'en achètes plus. Mm-hmm. Pour que moi, j'ai pas à me responsabiliser vis-à-vis de la weed que je savais que j'allais pas être capable de ne de pas gérer, fumer si elle était chez moi, mec.
Mais bon, parce que quand tu me passais quelques sous, tu le fumais dans la soirée, ou des fois tu me passais un peu plus parce que t'avais passé toute la semaine. Mm-hmm. Et ça remboursait.
Frère, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pendant. Alors, on s'est vu, là, peut-être on revient du coup plus sur le présent. Moi, j'ai eu cette période, comme je disais, fin de l'année passée, donc fin 2021, mm-hmm. où j'ai recommencé à fumer. Et j'arrive ici en Suisse. Pendant tout le mois de décembre, je suis ici. On s'est vu plusieurs fois. Du coup, là, t'étais déjà chez ta tante. Et ouais. Là-bas, tu fumais aussi?
Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fumé chez ma tante. Je crois que c'est la période où j'ai fumé encore le plus. Parce que, je sais pas, c'est comme un. T'as été autonome pendant. Enfin, t'es autonome. Tu vis plus chez tes parents, t'es plus, entre guillemets, sous l'aile de quelqu'un. Et puis, à 28 ans, pouf, je suis chez ma tante, quoi. Et je vis dans une petite chambre, et là, il y a ce.
Très petite chambre.
Très petite chambre, mais suffisant pour mon studio, donc c'est l'essentiel. Et du coup, c'est vraiment. Ouais, je pense que dans ma tête, c'est un échec de ouf. Et j'ai recommencé à fumer encore plus. Et là, j'ai tout associé au cannabis. Les balades de mon chien, jouer aux jeux vidéo, manger, dormir, tout. Chaque chose était associée à la weed.
La weed, si j'avais pas de weed,
j'étais hors de moi. Ça devenait horrible.
Moi, je m'étais souvent. J'avais souvent fait la remarque comme quoi c'était chiant en fait que tu puisses pas.
Je pouvais pas venir chez toi sans weed, pas aller au sport sans weed, je pouvais pas.
Ouais.
Montage vidéo sans weed, impossible. Enfin, ouais, tout était fait avec le cannabis. Mm-hmm. Mais toujours ces questionnements sur le développement de ma personne, sur aller mieux, et je pense que la ligne directrice, c'est il faut que je m'aime en fait,
ouais.
Que je m'aime moi-même. Et c'est une des choses qui m'a permis d'arrêter cette fois-ci, parce que là, j'ai arrêté. Pour la dernière fois, le cannabis. Et ouais.
C'est quoi en fait le truc qui t'a. Alors comment ça s'est passé ce processus d'arrêt en fait? Quelles sont les réflexions qui te sont vues? C'était un trop-plein? Est-ce que c'était. Et comment est-ce que les différentes étapes en fait jusqu'au moment où t'as arrêté de fumer du coup cette. Enfin pour la dernière fois du coup?
C'était. Déjà cette. Un besoin de liberté, j'avais besoin de me sentir libre. Je me rendais compte à quel point j'étais bloqué vis-à-vis de tout ce que je pouvais avoir envie de faire et que je ne pouvais pas faire à cause du cannabis.
Genre.
Aller voir un pote, quoi. Okay. Sans weed, je pouvais pas. Aller promener mon chien sans weed, je pouvais pas. Parce que comme c'est tout ce que je viens de te dire. Ouais. En fait, je me rendais compte à quel point j'étais dans une prison. Et tous ces questionnements sur envie d'aller bien, envie de m'aimer moi. Et le cannabis était le premier obstacle à ça. Et voilà, je crois que c'est la raison primordiale. Je pense pourquoi. Ouais, je peux pas dire pourquoi ça a pas tenu avant. C'était parce que mon objectif, c'était juste d'être en bonne santé, d'avoir un beau corps. Et aujourd'hui, c'est pas du tout ça. C'est. Aller bien. Juste aller bien. Ce qui fait que j'ai arrêté le cannabis.
Je fume pas mes os, mais mes démons. J'aime pas les autres qui ont mes défauts. Si le monde est sale, c'est peut-être ma faute. La vie en rose pour les daltoniens. J'fume pas mes aubes, mais mes démons. J'aime pas les autres qui ont mes défauts. Si le monde est sale, c'est peut-être ma faute. La vie en rose pour les daltoniens.
J'ai fait la démarche de contacter une clinique où je pourrais aller pendant un mois et que je serais suivi pour pouvoir vraiment arrêter de fumer.
Ok.
Et je me suis préparé mentalement une semaine avant cette clinique et tout ça. Et je suis arrivé ce jour, ce fameux jour pour installer mes affaires et dormir là-bas et tout. Et impossible. je peux pas, j'ai pas pu aller dans la clinique. Impossible. J'ai pas pu faire une nuit dans la clinique. C'était je sais pas expliquer pourquoi. C'était pas possible, quoi.
Genre, t'étais dans une chambre partagée avec.
J'étais dans une chambre avec quelqu'un, justement. J'imagine que j'avais pas déjà le feeling quand j'ai rencontré la personne à qui j'allais partager une chambre pendant un mois.
Ouais.
Et j'avais besoin de plus que tout de réconfort, de me retrouver dans un lieu sain, je pense, entre guillemets. Et ce jour-là, j'ai, je pense, compris qu'il n'y avait pas plus sain que chez ma tante, en fait. Là où les gens sont là pour moi, les gens m'aident. Et ce moment où je n'ai pas pu passer cette nuit a été le déclencheur pour me rendre compte que en moi, j'avais tout ce qu'il fallait pour arrêter de fumer, en fait.
Ok, d'accord.
Et que j'avais pas besoin de passer par mille chemins. Et c'est un peu bizarre, en fait. Et ouais, ça a été un déclencheur de paniquer, de me rendre compte que j'allais passer un mois dans un environnement où je me sens pas du tout à l'aise.
Elle avait quoi, cette clinique, en vrai, qui te...
Bah, rien. C'est juste que j'ai pas mes repères, c'est loin de tout, il y a personne que je connais.
L'environnement, genre, objectivement, il était comment? Il y avait un truc.
Ça sent le mal-être, en fait. Ça sent terriblement le mal-être. C'est des gens qui sont là pour arrêter leur addiction ou leur trouble de la nutrition. Et en fait.
C'est décoré? T'as l'impression d'être dans une maison ou t'as l'impression d'être dans un hôpital?
Une vieille maison, hôpital. L'environnement me.
Lugubre.
Lugubre. Moi, j'ai trouvé très lugubre.
Ah, d'accord. Ouais.
L'odeur, le. C'est peut-être que ça m'a fait redescendre, tu vois. Ça m'a fait conscientiser que là, je me mettais dans une condition encore plus compliquée par rapport à ce que j'avais besoin de moi pour arrêter de fumer. Et ça m'a mis une claque, en fait, je pense, de pas réussir. Ouais.
Et t'es rentré le soir même?
Ah, je suis rentré.
T'as pas dormi une nuit là-bas?
Ah, non. Impossible.
C'est qui est venu te chercher?
J'ai appelé ma sœur, je lui ai demandé de venir me chercher.
Et elle a dit quoi?
Elle a dit ok.
Elle a direct dit, elle t'a pas demandé? Ouais,
je lui ai expliqué, j'ai été assez éligible dans ma manière de lui expliquer pourquoi je restais pas.
Okay.
Et elle a compris que ce qu'il me fallait, c'était pas d'aller là-bas, quoi.
Et puis le soir, du coup, elle te ramène chez ta tante?
Et c'est parti, je prends mon courage et j'affronte. Ça a été beaucoup plus dur que la première fois, du coup.
Okay.
J'affronte ce qu'il faut pour arrêter de fumer.
Mais t'avais de la weed chez ta tante?
Il y avait quelque part du cannabis et j'aurais su le trouver si je voulais le trouver. Ouais.
Genre comment ça, quelque part?
C'était pas à moi, mais il y a une connaissance de la famille qui a laissé un petit peu de son shit à la maison.
Pourquoi?
Parce qu'il habite en France et il voulait pas repasser la douane et tout. Puis quand il va revenir, il sait qu'il retrouvera son petit bout de shit, mais il consomme très peu. Et donc oui, si je voulais fumer, je savais très bien où aller et comment faire, quoi. Mais non, j'ai vraiment eu cet accord avec moi-même de « c'est bon, maintenant je fais ce qu'il faut pour aller bien et ça passe par là, donc ouais, j'ai pas pensé du tout. » Ah non, mais...
Je l'aurais pas demandé, hein.
De quoi?
De mettre de la musique émotionnelle.
On va chialer, c'est maintenant. Ouais, et du coup, bah, ouais, ça a été l'élément...
le moment. Ça,
c'était trop émotionnel, ils ont changé.
C'était trop émotionnel. Mais tu t'es endormi, c'était comment? Enfin,
Ah bah, je dors pas de la nuit, j'ai transpiré pendant 5 jours. J'avais chaud, dès que je voulais faire quelque chose que j'avais lié au cannabis, bah, je transpirais.
Parce que t'es resté tout le long dans le même environnement, en fait. Tout le long
dans
la même chambre.
Ouais, exactement. J'étais dans ma chambre où je fumais tous mes joints. J'étais sur le PC où je fumais tous mes joints. Je faisais les mêmes promenades dans les mêmes lieux où je fumais tous mes joints.
Et pourquoi tu t'es pas dit que t'allais changer d'environnement? Parce que, enfin, j'imagine que c'est quelque chose dont t'étais conscient, en fait, qu'il y a beaucoup de gens ou de lieux que t'associes et que ce petit shot de dopamine que tu te prends qui te donne envie, en fait, de fumer ton pet, tu t'as pas à le combattre s'il vient pas, en fait. Mais s'il vient, t'as besoin de le combattre. Tu vois ce que je veux dire?
Parce que j'en ai aucune idée. Quand j'ai vu comment ça aurait été complexe pour moi de changer de lieu dans un lieu, bah, une clinique qui est fait pour, c'est comme si mon lieu de vie où j'avais associé le cannabis à mes actions, finalement, me paraissait plus simple. Je me dis, ça a comme été un électrochoc en mode « réveille-toi, frère, réveille-toi ». Et ça m'a beaucoup aidé de ne pas aller à la clinique. Énormément aidé. Et voilà, j'ai... La conclusion est un peu rapide et...
Non, mais bah, elle est parfaite. Ça te fait quoi, en fait, de reparler de tout ça, genre de revenir un peu sur toute ton expérience maintenant? Enfin, j'imagine, tu vois, c'est un truc, comme on le disait au début.
Tout ce qu'on dit depuis le début, depuis mes premiers joints.
Ouais, ouais, ouais. De revenir sur, sur toute cette histoire, ça te fait te sentir comment ?
Bah, bien. J'ai dit exactement la même chose dans le podcast de la période déjà plus négative. Bah, ça fait ce qui je suis aujourd'hui, quoi. La vie n'aurait pas de sens si j'avais pas vécu ces choses. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, bien sûr. C'était ton aventure.
Pour moi, c'est évident. Il fallait que ça se passe, il faut que ça se passe. Et voilà par quoi je vais traverser encore pour être génial.
Mec, ça te file une expérience. Moi, je me dis, c'est le fait d'avoir réussi à combattre une addiction et à passer au-delà. C'est un truc qui fait... Parce qu'aujourd'hui, maintenant, ça fait combien de temps que t'as plus fumé ?
Là, ça fait 3 semaines et demie. Et ça fait bien 2 semaines que... Je suis complètement détaché de ça, quoi.
Ok.
Alors, des fois, je transpire un petit peu parce que je vais entendre un pote fumer ou quoi. Mais
l'autre jour... T'arrives à être dans une pièce avec des gens qui fument et puis...
Non, entendre au...
Hôtel.
Hôtel, ouais. Mais l'autre jour, j'étais à la ferme, ce week-end.
Ouais.
Et ils ont fumé à côté de moi. Mais à côté de moi, l'odeur me passait devant. Et c'est bon, quoi.
Ok.
Je vais pas refumer, quoi. Ouais. Donc, c'est bon.
Ok. Et du coup, le fait d'avoir réussi enfin à faire... Enfin, bref, genre on parle de tout ça. Moi, je vois que là, maintenant qu'on parle, alors c'est peut-être, comme on l'a dit au début, tu vois, genre enregistrer un podcast, c'est pas le truc le plus naturel de la Terre. Mm-hmm. Moi, je te sens assez calme au niveau de ton énergie. Est-ce que c'est lié à la caméra ? Est-ce que c'est lié, au fait, à une prise de conscience qu'il y a des gens qui vont écouter ce qu'on va dire ?
L'angoisse de... je suis toujours dans cette démarche de m'aimer suffisamment. Et quand on n'est pas... On n'a pas assez d'amour propre pour soi, bah on est stressé de la vie des autres. Du coup, bah, actuellement, je suis stressé de ce que pourraient penser les gens ou ce que pourraient dire les gens. Du coup, je n'arrive pas à être 100% moi-même. Tu vois.
Ouais,
je t'ai dit, c'est un petit peu comme monter sur scène pour faire un concert.
Ouais,
j'ai un peu la même angoisse. Et c'est pour ça que je suis calme. Et puis, on parle de choses sérieuses aussi.
Ouais.
Il y a une période de ma vie où je fuyais beaucoup les conversations sérieuses par la déconnade. Mais bon, je pense que ce n'est pas une chose... ouais. Quand on parle sérieux, bah c'est aussi bien d'être sérieux. Mmh. Et je sais qu'on va éteindre la caméra, bah on va délirer très fort.
C'est vrai, les gens qui sont venus écouter ce podcast, qui nous ont écoutés jusqu'ici, c'est des gens qui sont venus justement pour entendre le parcours de quelqu'un qui a fumé, tu vois. Donc ils sont pas là dans le jugement, tu vois. Ils sont juste là pour écouter une histoire. Ouais, quand t'entends une histoire de quelqu'un, tu juges évidemment au sens où il y a des choses, tu dis ah là il aurait peut-être pas dû faire ça ou ah c'est cool qu'il ait fait ça, mais au final tu viens ici pour ça, tu vois, donc au final ce que eux pensent de toi, ça aura jamais autant d'importance que ce que toi tu penses de toi. Et si toi aujourd'hui frère, ça t'a renforcé de ouf, tu vois, genre toute cette expérience, le fait d'être passé à travers toute une addiction et d'avoir réussi à combattre ce truc, ça te donne non seulement une expérience, une meilleure connaissance de toi, mais c'est aussi quelque chose que aujourd'hui tu peux te servir de ce truc pour inspirer des gens, pour le partager avec des gens, en aider des gens.
Ouais.
Et que ce soit des gens qui soient derrière une caméra ou que ce soit genre ça, peut-être tes enfants plus tard ou des proches qui passeront par les mêmes trucs.
Mm-hmm.
Donc comme tu as dit, à mon avis, tu l'as vécu et c'est pour ça fait partie de ton histoire et ça fait partie des trucs que tu devais vivre. Moi, je pense que tu devrais faire des blagues. Dis-nous tes meilleures blagues.
Est-ce que je peux pas là. T'es fou si tu me dis arrête d'être coincé, frère.
Ouais, genre sois drôle.
Ouais. Non.
Tu sais, je propose qu'on termine ce podcast sur ton dernier son. Je peux le mettre en entier. Tu me permets. Tu me fais pas striker pour des droits d'auteur.
C'est peut-être, on verra. Non, mais mon dernier son, justement, c'est le dernier son. C'est particulier de mettre celui-là, en fait.
Pourquoi ?
Parce que c'est un constat négatif du monde. Et une envie de s'en sortir. C'est un espèce de mélange très ambigu entre je peux le faire et le monde y pue. Mais c'est un peu ce que je vis. Hein. C'est un peu cette dualité que j'ai en moi qui fait que je peux aller très bien et très mal dans une même journée. Le dernier, pourquoi pas ?
Moi, je pense qu'il est intéressant parce que, d'une part, c'est un truc qui te correspond bien, la nuance. T'es pas quelqu'un qui est dans le... dans la, comment on appelle ça, t'as pas un esprit putain, comment dire, c'est manichéen, genre bien mal ou bref, tu vois les choses de manière nuancée.
Mm-hmm.
Et avec ça, c'est le dernier son que t'as fait,
Fonce D,
exact.
Sous l'influence du cannabis. Ouais.
Sous l'influence de la marijuana.
Exactement.
C'est-à-dire que les sons que tu vas publier sur ta chaîne YouTube à partir de là, et sur Spotify, parce que j'arrête pas de te dire, il faut poster ça sur Spotify, parce que c'est des sons sur lesquels j'ai envie de kiffer, tu vois. Ça va être des sons, du coup, que tu vas écrire sobre.
Exactement. J'ai pas encore. Ça, c'est le seul truc où j'ai pas réussi à faire le pas.
D'accord.
C'est, je crois, la musique, la chose où j'ai le plus associé au cannabis.
D'accord.
Et j'angoisse un peu, en fait.
D'accord.
De pas réussir à écrire, parce que c'était un des problèmes avec le cannabis, c'est que j'arrivais pas à écrire, où je mettais très longtemps, puis j'arrivais pas à m'exprimer. Mm-hmm. Puis après, j'allais vite fumer, et j'arrivais encore moins à m'exprimer et à écrire. Et là, j'angoisse un peu de me retrouver devant ma feuille blanche et de pas réussir à écrire, alors que je fais les démarches pour m'épanouir et pour voir potentiellement exprimer mieux et plus de choses, quoi.
Bah, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je me fais pas de soucis pour ça, parce qu'à chaque fois qu'on parle, tu me dis j'arrive plus à écrire et tout, et puis une semaine après, en fait, tu drops juste une dinguerie. Et puis, peut-être des fois ça prend un peu plus, tu vois, ouais. mais vraiment d'un point de vue créatif, t'as vraiment quelque chose de cool. En tout cas, voilà, on va se laisser sur le dernier son de Max. Max, merci beaucoup pour tout ce temps que tu m'as accordé. C'est vrai, j'ai trop kiffé.
Moi, j'ai kiffé aussi.
Super.
Tu pries le Seigneur mais je ne l'entends pas. Pourquoi la vie ne m'encense pas? Papa m'a dit vas-y danse Max. Si la lumière existe faut aller dans ce sens là. Mais qui veut grandir dans un monde si sale? Des gens dépensent 10 smic pour un bout de cigare. J'ai vu des gens qui se piquent dans le fond de cette gare. Tu trouveras pas l'amour dans le fond de cette gare. J'avance mais je suis toujours dans le mal. Chute le tout bas, toi t'as pas le droit de te plaindre. J'avance mais je suis toujours dans le mal. Chute le mal, toi t'as pas le droit de te plaindre. Ils confondent la peur et le respect. Ils confondent bonheur avec espèce. Je visais la lune, maintenant je l'espère. Je marche sous sa lumière dans les herbes vertes. J'ai de la peine à pleurer, faut que je répète. J'ai de la peine à pleurer, faut que je répète. J'ai de la peine à pleurer, faut que je répète. J'ai de la peine à pleurer, faut que je répète.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.